Bonjour à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Il y a quelques années de cela, j'allais participer à une rencontre de prière entre différentes églises de l'association baptiste. Et puis donc je me rends dans une église, et là il y avait un certain nombre de personnes, donc j'en connaissais un certain nombre, d'autres je ne les avais encore jamais vues. Et puis je vois au fond de la salle un vieux monsieur avec une grande barbe blanche, ce monsieur étant sur un fauteuil roulant, et puis il était assis et il ne bougeait pas. Et moi qui arrivais en pleine forme, jeune chrétien, et je me suis dit en voyant ce monsieur, bon ben voilà, ça devait être un chrétien de longue date, j'aurais presque pensé dans ma tête un ancien chrétien. Et puis là, ben, on l'a amené ici pour lui faire plaisir. Mais il m'avait l'air tellement fatigué et éteint que pour moi, il ne faisait que acte de présence en étant ici. Et puis, la soirée de prière allait commencer et elle devait être introduite par une méditation biblique. Et la personne qui faisait un petit peu l'animation nous dit, ben, maintenant, je vais laisser la parole à un tel. Et là, j'ai la surprise de voir que la personne qui était censée nous apporter la méditation biblique était ce vieux monsieur sur son fauteuil roulant. Alors, il lui passe un micro, et puis ce monsieur commence, donc ouvre sa Bible et commence à lire. Alors là, j'ai quand même été surpris par la clarté de sa voix et la façon qu'il avait de mettre en avant le texte biblique. Mais tout de suite, je me suis dit, mais il lit peut-être bien, mais il est complètement à côté de la plaque. Parce que c'était une soirée de prière avec un thème, et le texte qu'il était en train de lire n'avait vraiment aucun rapport avec le thème de la soirée. Et ce monsieur termine sa lecture, et là il commence à la commenter. Et là, le Seigneur m'a donné comme une grande claque. Parce que ce qu'il faisait ressortir de ce texte était d'une profondeur et en parfaite, je dirais, adéquation avec le thème de la soirée. C'était un texte que moi j'avais déjà lu, je n'avais jamais trouvé ça dans ce texte, mais vraiment, il mettait tout cela en avant. Et je me suis dit, le Seigneur te donne une leçon, essaie de la retenir, il ne faut pas juger les chrétiens sur leur apparence. Et cela dit, en passant, j'ai appris à un peu mieux connaître ce monsieur quelques années plus tard. Ce monsieur était Jules Marcel Nicole, le théologien. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Alors, tout comme Pâques, la Pentecôte était à l'origine une très importante fête juive. Cette fête était appelée alors la fête de la moisson ou fête des semaines, parce qu'elle se déroulait 7 semaines après Pâques. 7 fois 7 jours après Pâques, cela fait 50 jours, d'où le nom actuel de Pentecôte. Et il y a bientôt 2000 ans de cela, à Jérusalem, s'est déroulée la plus extraordinaire de toutes les fêtes de Pentecôte. Une fête au cours de laquelle Dieu a manifesté sa présence d'une manière tout à fait extraordinaire. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui avaient placé leur confiance en Jésus. Et c'est pour cette raison que plusieurs considèrent que le jour de la Pentecôte marque le début de l'Église. Parce que c'est à partir de ce jour-là que l'Esprit est venu habiter le cœur de tous ceux qui avaient reconnu en Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Depuis la Pentecôte qui a suivi la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, tous ceux qui lui appartiennent ont reçu le Saint-Esprit et sont animés par le Saint-Esprit, qui est également appelé parfois Esprit de Dieu ou Esprit de Christ. Romains 8, 9 nous dit ceci: « Vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si jamais quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, alors c'est qu'il n'appartient pas à Jésus. Il n'est pas converti, il n'est pas sauvé. C'est peut-être quelqu'un de religieux, c'est peut-être un sympathisant de la foi chrétienne. Mais si jamais l'Esprit de Dieu ne vit pas en lui, alors il n'est pas véritablement chrétien. Il n'appartient donc pas à l'Église, il n'appartient pas au corps de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais en revanche, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu appartiennent à Jésus. C'est la présence de l'Esprit de Dieu dans notre cœur qui prouve, qui témoigne que nous sommes réellement un enfant de Dieu. Cela signifie que si nous-mêmes nous sommes chrétiens, nous devons reconnaître la dignité d'enfant de Dieu à toute personne en qui vit l'Esprit de Dieu, à toute personne sans faire aucune discrimination. Si l'Esprit de Dieu vit dans une personne, alors cette personne est pleinement enfant de Dieu, tout comme nous. Aucun chrétien ne devrait avoir un statut d'infériorité au sein du peuple de Dieu. Nous sommes pleinement enfants de Dieu, ou bien nous ne le sommes pas du tout. Mais il n'y a pas de catégorie intermédiaire. Et c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui témoigne si nous sommes bien un enfant de Dieu. Ce matin, le thème de la prédication est « Reconnaissons la dignité d'enfant de Dieu à tous ceux qui portent les fruits de l'Esprit de Dieu ». Et nous allons lire plusieurs textes du livre des Actes où le Saint-Esprit vient attester que telle ou telle personne appartienne à Jésus. Et dans ces passages, nous allons plus particulièrement nous intéresser au message que le Saint-Esprit a envoyé à ceux qui ont été les témoins de ces scènes. Nous allons essayer de nous mettre dans la peau des témoins. Et je vous encourage à ouvrir vos Bibles au livre des Actes, au chapitre 2, et à suivre la lecture avec moi. Nous aborderons notre premier point, l'Esprit de Dieu témoigne en faveur de ceux qui appartiennent à Jésus. Voilà 10 jours que Jésus est remonté au ciel. Environ 120 disciples de Jésus sont réunis dans une grande maison à Jérusalem. Et je commence ma lecture au chapitre 2 et au verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, en séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Luc, l'auteur du livre des Actes, prend la peine de nous donner des précisions sur ceux qui sont les témoins de la scène. Ce sont des Juifs, et pas n'importe quel Juif, ce sont des hommes au sens masculin du terme. Et ce sont des hommes pieux, des hommes qui sont venus de loin, de différents pays, afin de pouvoir se rendre au temple le jour de la fête des moissons, tout comme Dieu l'avait recommandé. Et parce qu'ils ont entendu un grand bruit descendre du ciel et qu'ensuite ce bruit a dû continuer à se faire entendre depuis une maison, ils sont venus nombreux en foule voir ce qui se passait. Et là, ils n'en reviennent pas de ce qu'ils découvrent. Verset 6. Ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Et ces langues sont très diverses parce que ces hommes viennent de plusieurs pays. Verset 9. « Partes, Mèdes, Élamite, habitant de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résident venu de Rome, juif de naissance ou par conversion, crétois et arabe, nous les entendons parler dans notre langue. Et l'origine divine des paroles qu'ils entendent ne fait aucun doute, car ces hommes pieux entendent parler, verset 11, des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Et ces hommes pieux ont de nombreuses raisons d'être remplis d'étonnement. La première, c'est bien sûr qu'ils entendent parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et qu'ils entendent cela de la bouche de personnes qui visiblement n'ont pas de contact avec d'autres pays. Ce sont tous des Galiléens, issus d'une petite région. Mais d'autres choses sont également étonnantes. Ces gens qui parlent devant eux des merveilles de Dieu sont des disciples de Jésus. Des disciples de cet homme qui, 50 jours plus tôt, a été crucifié, pour quelle raison ? Pour blasphème contre Dieu, et parce qu'il se prétendait être le Fils de Dieu. Parce que ces hommes pieux en sont restés là. Eux, ils ne sont pas de Jérusalem. Lors de la Pâque, en tant qu'hommes pieux, ils étaient venus à Jérusalem. Ils savent que Jésus a été crucifié pour blasphème, mais en revanche, ils n'ont pas été les témoins de la résurrection de Jésus, parce qu'après la Pâque, ils sont rentrés chez eux. Alors peut-être que là où ils habitaient, ils ont entendu dire que Jésus était ressuscité. Mais ils ont également dû entendre le mensonge qui était colporté par les responsables religieux, mensonge qui disait que Jésus était bien mort, mais que ses disciples avaient volé son corps. Voilà là où eux, ils en sont restés. Mais pourtant, devant eux, ce sont des disciples de Jésus qui parlent des merveilles de Dieu. Autre chose étonnante, parmi ces personnes qui parlent des merveilles de Dieu, il y avait des femmes. Oui, des femmes. Actes 11, 14 nous dit, « Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier. » Et Luc précise, « Avec les femmes. » Comment une femme pouvait-elle parler ainsi des merveilles de Dieu ? Parce que selon les préjugés de l'époque, les femmes devaient rester en dehors des affaires religieuses. Et c'était tellement ancré dans la conviction de l'époque que lors de la reconstruction du temple, les hommes s'étaient sentis la liberté de modifier les plans du temple afin d'interdire aux femmes de s'approcher du sanctuaire. Chose hallucinante. Par rapport au temple de Salomon, temple lui-même construit selon le modèle du tabernacle dont Dieu avait donné les plans à Moïse, le nouveau temple d'Hérode, lui comprenait une cour supplémentaire, la cour des femmes. Alors les hommes, eux, avaient le droit de se tenir dans cette cour. Ils pouvaient rentrer et sortir librement. Mais les femmes, elles, en revanche, n'avaient pas le droit d'en sortir, sauf pour aller à l'extérieur dans la ville. Mais dans l'enceinte du temple, elles n'avaient pas le droit d'être ailleurs que dans l'enceinte des femmes. Et donc, elles ne pouvaient plus venir devant l'autel, là où les prêtres offraient des sacrifices à Dieu. Les affaires religieuses étaient maintenant réservées aux hommes pieux, et cela semblait normal. Mais en ce jour de Pentecôte, ces mêmes hommes pieux assistent à quelque chose d'anormal pour eux. Ils entendent distinctement des femmes qui leur parlent des merveilles de Dieu. Que de choses étonnantes pour eux, des choses qui ne s'accordent pas avec leurs préjugés. Aussi, ils ne savent pas quoi penser de tout cela. Verset 12, « Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Ou plus précisément, « Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre ?» Parce que Dieu est derrière cela. « Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre ?» est la bonne question que nous devrions tous nous poser lorsque nous constatons que l'Esprit de Dieu, à notre plus grand étonnement, est en train de se manifester au travers de certaines personnes et des personnes dont nous n'aurions pas imaginé que ce soit possible. Et la réponse nous est donnée par Pierre. L'apôtre Pierre prend la parole et dit, verset 16, « Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » Le prophète Joël qui a vécu environ 800 ans plus tôt. Dans les derniers jours, c'est-à-dire entre la première venue de Jésus et son retour glorieux, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » Depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est reçu par tout disciple de Jésus, sans distinction. Tout chrétien, quel qu'il soit, a reçu l'Esprit de Dieu, homme ou femme, jeune ou vieux. Toute personne qui a reçu l'Esprit de Dieu est pleinement enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui témoigne en faveur de ceux qui appartiennent à Jésus. Malheureusement, nos préjugés peuvent nous empêcher de reconnaître à certaines personnes la dignité d'enfant de Dieu. Cela nous conduit à notre second point. Ne laissons pas nos préjugés déconsidérer ceux que le Seigneur a choisis. Et là, nous allons avancer un petit peu dans le livre des Actes et nous intéresser maintenant à un passage qui commence à la fin du chapitre 10. L'épisode que nous allons lire se déroule quelques années plus tard et l'apôtre Pierre est à nouveau impliqué dans cette histoire. Dieu a de façon très claire conduit Pierre et un centurion romain du nom de Corneille à se rencontrer. Pierre, accompagné de plusieurs disciples, tous d'origine juive, se rend dans la maison de ce Romain. Et là, Pierre annonce l'évangile à tous ceux qui se trouvent présents. Et nous commencerons notre lecture au verset 44, acte 10, verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Formidable ! Pierre annonce l'évangile à ses Romains et en l'entendant parler, ils se convertissent et reçoivent le Saint-Esprit. Et là, les disciples qui accompagnent Pierre ont une étrange réaction. Ils sont étonnés. Et étonnés de quoi ? Verset 45. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Les chrétiens qui accompagnent Pierre sont stupéfaits d'une chose, que Dieu ait accordé à Corneille et à ceux de sa maison le Saint-Esprit. Ils sont étonnés, car selon leurs préjugés, ces non-juifs ne pouvaient pas appartenir au Seigneur. Mais pourtant, ils constatent que ces Romains ont reçu l'Esprit de Dieu de la même manière que eux-mêmes l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, Dieu, on peut vraiment dire que Dieu avait mis le paquet afin de vaincre les préjugés des hommes juifs religieux qui ne pouvaient concevoir que des disciples de Jésus, hommes et femmes, puissent appartenir au Seigneur. Un grand bruit descendu du ciel, le feu également descendu du ciel, un feu qui se posait sur la tête des personnes, mais un feu qui ne détruisait pas. Parce que ça, dans la culture juive, le feu descendu du ciel représentait quelque chose. Et là, ils voient ça devant leurs yeux. Et en plus, chaque personne qui était présente entendait les disciples de Jésus de parler des merveilles de Dieu dans la langue qu'ils comprenaient le plus, leur propre langue maternelle. Acte 2.41 nous dit que la plupart de ces hommes ont laissé de côté ces préjugés et ont reçu le témoignage rendu par l'Esprit de Dieu, parce que ce jour-là, 3000 personnes environ se sont converties. Et chez Corneille, on peut dire que Dieu fait la même chose. Il fait en sorte que ces chrétiens d'origine juive, aveuglés par leurs préjugés, fassent le parallèle avec leur propre expérience. Verset 46, « En effet, ils entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. » Ça a dû faire tilt, ça, dans leur tête. Mais cette fois-ci, Dieu n'a pas eu besoin de faire descendre un grand bruit des flammes du ciel. Pierre et ceux qui l'accompagnent ont compris le message. Ces personnes d'origine païenne appartiennent au Seigneur tout comme eux. Et ils appartiennent au Seigneur parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Alors Pierre dit, verset 46, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Et voilà un acte très fort. Pierre, l'apôtre le plus éminent à l'époque, lui-même dit « Mais nous allons les baptiser. » Quel acte qui montre justement cette reconnaissance qu'il faisait partie du même peuple de Dieu. Pierre engage sa responsabilité d'apôtre et fait baptiser ses chrétiens. Nous avons tous des préjugés, des opinions préconçues qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de notre milieu, de notre éducation, de notre culture, de nos propres expériences. Le jour de la Pentecôte, les préjugés étaient que Dieu ne pouvait remplir de sa présence des disciples de Jésus, et encore moins si c'était des femmes. C'était des préjugés humains et non pas des vérités qui venaient de Dieu. Parce que des centaines d'années auparavant, Dieu avait annoncé que son serviteur, Jésus, donc à l'époque c'était le serviteur, simplement le nom n'était pas encore indiqué, qu'il donnerait sa vie pour porter nos fautes, qu'il serait considéré comme un criminel. Et ça, c'est exactement ce que Jésus a accompli. Donc les Juifs pieux qui connaissaient les Écritures n'auraient pas dû être surpris que la parole de Dieu s'accomplisse. Et également, Dieu avait aussi annoncé que tous ses serviteurs, hommes ou femmes sans distinction, seraient remplis de l'Esprit de Dieu et prophétiseraient. Chez Corneille, le préjugé était que Dieu ne pouvait pas remplir de sa présence des personnes d'origine païenne. Pourtant, Jésus n'avait-il pas rappelé à ses disciples que des hommes et des femmes de toute nation deviendraient ses disciples? Qu'y avait-il d'étonnant à ce que des païens se donnent à Jésus? Nos préjugés nous font parfois mettre de côté ce que Dieu lui-même nous a révélé. Et nous aujourd'hui, avons-nous des préjugés concernant ce que devrait ou ne devrait pas être un véritable chrétien? Quels sont nos préjugés qui nous empêchent de reconnaître que telle ou telle personne appartient bien au Seigneur? Alors pour la théorie, nous n'avons aucun problème. Dieu ne fait pas de distinction de personne. Tous ceux qui croient en Jésus sont enfants de Dieu. Mais dans la pratique, nos préjugés nous amènent-ils pas à déconsidérer certaines personnes et à leur refuser le statut d'enfant de Dieu? Ou bien, plus subtilement, à considérer que certaines personnes sont moins chrétiennes que nous, en quelque sorte des chrétiens de seconde classe? Il y a les vrais chrétiens, et puis il y a les autres. Chrétiens, mais un peu moins. Avons-nous des préjugés? Avons-nous des préjugés par rapport aux femmes? Avons-nous des préjugés par rapport à ceux qui ont une origine ou une culture très différente de la nôtre? Oh, quand je vois vivre ces gens-là, ils sont tellement différents qu'ils ne peuvent pas être vraiment chrétiens. Avons-nous des préjugés par rapport aux chrétiens qui ne vivent pas leur foi de la même manière que la nôtre? Les charismatiques ou bien les anti-charismatiques? Avons-nous des préjugés par rapport à ceux qui vivent, qui s'habillent, qui parlent, qui se comportent d'une manière très différente de la nôtre? Un chrétien ne peut pas faire cela. Avons-nous des préjugés par rapport à l'âge? Il est trop jeune pour être chrétien. Ou bien il est trop vieux pour s'être vraiment converti. Avons-nous des préjugés par rapport à des personnes qui, à nos yeux, ont commis de trop grands péchés? Ou bien vis-à-vis de personnes qui nous ont blessés ou offensés un jour? Je ne peux pas croire, je ne peux pas accepter que Dieu pardonne à ces personnes. Dieu pourrait, bien sûr, mais Dieu ne peut pas l'avoir fait. Ne laissons pas nos préjugés déconsidérer à nos propres yeux ce que le Seigneur a lui-même choisi pour faire partie de ses enfants. Ce n'est pas sur la base de nos propres critères que nous devons reconnaître à quelqu'un le statut d'enfant de Dieu. C'est uniquement sur la présence de l'Esprit de Dieu dans le cœur de cette personne que nous devons nous fier pour reconnaître si quelqu'un est ou n'est pas un enfant de Dieu. Ça nous conduit à notre troisième point. Reconnaissons la dignité d'enfant de Dieu à tous ceux qui portent les fruits du Saint-Esprit. Les manifestations spectaculaires ou bien l'accomplissement de miracles ne sont pas de bons moyens pour évaluer si l'Esprit de Dieu habite le cœur d'une personne. Le diable peut lui-même faire des choses qui nous semblent extraordinaires. Et puis nous voyons aussi que dans le Nouveau Testament, les miracles n'accompagnent pas toujours les disciples. Certains disciples, pleinement remplis de l'Esprit de Dieu, sont morts exécutés. Ils ont prié pour leur libération, ça n'a pas eu lieu. Et on a aussi l'impression, en lisant le Nouveau Testament, qu'au fil des années, la fréquence des miracles semble s'estomper. Donc ce ne sont pas de bons critères. En revanche, la Bible nous donne deux éléments qui attestent ensemble de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne. 1 Corinthiens 12, 3 nous dit « C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. La première chose, c'est le témoignage qui provient de ce que nous disons de Jésus, et en particulier de notre reconnaissance que Jésus est le Seigneur. Pas simplement le mot « Seigneur ». Mais le Seigneur de notre vie, le Seigneur Tout-Puissant. La façon dont nous parlons de Jésus témoigne de la présence ou non de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. J'ai un mauvais souvenir une fois où, avec plusieurs églises, c'était pour l'année de la Bible, nous avions invité un artiste faire du gospel. Et un artiste doué, c'était vraiment chouette. Mais malheureusement, pour nous, et je pense pour les personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur qui était venu là, cet artiste, ce chanteur, a aussi parlé de Dieu. Il a commenté les textes, les chants qu'il chantait. Et là, visiblement, cette personne ne connaissait pas le Seigneur. Elle savait que Dieu existait, probablement. Elle était capable de mettre en avant des textes qui avaient été écrits par d'autres chrétiens. Mais elle, la façon dont elle parlait du Seigneur, montrait qu'elle ne le connaissait pas personnellement. Le Seigneur n'était pas le Seigneur de sa vie. La première chose qui nous permet de savoir si quelqu'un appartient au Seigneur, si cette personne a reçu l'Esprit de Dieu, c'est la manière dont elle parle de Jésus. Et la seconde chose, c'est le témoignage qu'apporte la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Si quelqu'un appartient au Seigneur, alors la présence de l'Esprit de Dieu se manifeste par des fruits dans la vie de cette personne. Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La présence de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs produit une transformation dans nos vies. Alors cela ne signifie pas qu'un chrétien est devenu parfait du jour au lendemain. Mais cela signifie en revanche que la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de cette personne amène des transformations positives dans la vie de cette personne. Un chrétien est quelqu'un qui progresse dans la sanctification. L'Esprit de Dieu porte des fruits dans la vie de cette personne, des fruits qui sont à la gloire de Dieu et qui reflètent la personne de Dieu. Si quelqu'un rend ainsi gloire à Jésus, par ce qu'elle dit et par ce qu'elle fait, par ce qu'elle est, alors cela ne peut provenir que de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et si cette personne, quelle qu'elle soit, a reçu l'Esprit de Dieu, alors nous devons la reconnaître comme étant pleinement et sans réserve un enfant de Dieu, sans écouter nos préjugés. Galates 3, 26 nous dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. L'Esprit du Seigneur nous revêt. Et il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Il n'y a pas de chrétiens de seconde catégorie dans le peuple de Dieu. Reconnaissons la dignité d'enfant de Dieu à tous ceux qui portent les fruits du Saint-Esprit sans faire de distinction de personne. Et ainsi, nous formerons véritablement un seul peuple, un seul corps véritablement uni en Christ. Reconnaissons comme enfants de Dieu sans faire de distinction de personne tous ceux en qui vit l'Esprit de Dieu. Amen.